Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour et bienvenue dans cette émission Voix des Chrétiens. Sur ce plateau, le père Jean Labro, prêtre du diocèse de Cahors, le pasteur Erizo, pasteur à Nègrepelisse en Tarn-et-Garonne, et le père Jean, igoumène pour l'église orthodoxe qui vient de Montauban, et moi-même, Jacques Allary, délégué diocésain à l'œcuménisme. Nous vous retrouvons donc dans le cadre de notre série d'émissions sur l'unité des chrétiens. Nous avons vu dans une première émission ce qu'il fallait entendre par unité des chrétiens, dans une deuxième émission ce qu'il fallait entendre par absence d'unité scandale, dans une troisième émission les grandes divisions de la chrétienté, nous avons vu également dans une quatrième émission la situation aujourd'hui de la chrétienté en chiffres et en termes de théologie. Et nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de l'œcuménisme et du mouvement œcuménique actuel. Quand on dit œcuménisme ou œcuménique, on emploie en fait un terme qu'on ne trouve que dans le Nouveau Testament, qui vient du grec oikoumene, qui désigne toute la terre habitée.
Voilà.
Terre habitée au sens de maison. Ce mot a été choisi en 1930 pour qualifier le mouvement de rapprochement des chrétiens, c'est-à-dire chrétiens, tous ceux qui se réclament du Christ et qui constituent la famille du Christ. Donc, à ne pas confondre avec l'interreligieux, qui, lui, est un mouvement de dialogue entre membres de familles différentes, puisque c'est entre les religions ou les philosophies, alors que l'œcuménisme, c'est un dialogue entre les membres d'une même famille, celle du Christ. Donc on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Voilà donc pour ce qui est la définition de l'œcuménisme. Y a-t-il quelque chose à rajouter sur ce terme d'œcuménisme de...
Non.
Bon, donc l'œcuménisme, c'est un mouvement œcuménique qui évolue dans le temps.
Oui.
Nous avons vu dans les précédentes émissions que le Christ voulait l'unité de ses disciples, c'est-à-dire des chrétiens. Nous ne sommes pas vraiment parvenus à maintenir cette unité, puisque dès les premières communautés, on voit qu'il y a des tiraillements. Dès les premiers siècles, on voit qu'il y a de graves hérésies par rapport à la doctrine du Christ, qui crée des divisions parmi les églises. Puis, à peu près tous les cinq siècles, nous avons vu dans des émissions précédentes qu'il y avait des grandes déchirures avec les grandes divisions entre Orient et Occident, puis au sein de l'Occident, avec nos frères protestants. Alors, il a fallu attendre longtemps pour que les chrétiens se préoccupent de dialoguer, d'avancer sur le chemin de l'œcuménisme, c'est-à-dire de cette volonté de dialoguer, de se rencontrer et d'aplanir tant que faire se pouvait les divisions. Donc on a attendu la fin du 19e siècle et même le début du 20e siècle pour que ce mouvement œcuménique véritablement prenne forme, avec notamment en 1948 la constitution du Conseil œcuménique des Églises. L'Église catholique est longtemps restée à l'écart de ce mouvement, considérant que c'était aux autres Églises à revenir vers elle, ce qui n'était pas une attitude acceptable, bien sûr, et ce n'est finalement qu'au sous le pontificat de Jean XXIII, et plus particulièrement avec le Concile Vatican II, qu'on a connu un véritable tournant dans l'œcuménisme, dans l'Église catholique. Alors, on ne va pas revenir sur tous les détails. Il y a eu le groupe des Dombes, il y a eu le père Couturier, il y a eu des choses très importantes qui se sont vécues dans l'œcuménisme. On a eu l'occasion d'en parler souvent dans des émissions. On ne va pas y revenir spécifiquement aujourd'hui. Ce qu'on va dire, c'est qu'il y a eu des avancées très considérables jusque dans les années 90-2000 vers l'unité des chrétiens. C'est vrai que depuis ces dernières années, depuis 10 ans, il y a des avancées moins visibles, si bien qu'on a pu parler d'un hiver de l'œcuménisme. C'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il y a eu des rencontres tout à fait décisives entre le pape François et les patriarches, Bartholoméos et Kirill. Il y a eu un dialogue luthéro-réformé catholique très fructueux, qui a abouti notamment sur les thèses de la justification par la grâce à ce document extraordinaire qui s'appelle le conflit, du conflit à la communion, qui veut bien dire ce que ça veut dire, du conflit de Luther à la communion aujourd'hui, et auxquels viennent d'ailleurs récemment de se rallier la communauté anglicane. Donc on a des avancées tout à fait décisives, même encore aujourd'hui, dans l'œcuménisme. Alors ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est, parce que quelquefois ça fait débat, quelle est la position de nos églises respectives par rapport à l'œcuménisme. Quand j'entends église respective, par rapport à nos fidèles. Alors je sais que dans l'église orthodoxe, la situation est tendue, on n'est pas vraiment franchement en faveur de l'œcuménisme. Dans l'église catholique, il y a des tensions, l'œcuménisme c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Voilà, j'aimerais qu'on s'exprime sur ces points. On va peut-être commencer par le père Labro. Oui. Comment se comportent les fidèles catholiques ou les prêtres catholiques vis-à-vis de l'œcuménisme ?
Bon, je pense qu'il n'y a pas un œcuménisme catholique. Le mouvement œcuménique a été lancé, à notre avis, par les protestants, suivi des orthodoxes. Le concile n'a pas créé un mouvement œcuménique parallèle ni supplémentaire. Il est entré dans le mouvement, et par le décret même, il a donné les principes catholiques qui doivent guider les catholiques dans cette démarche commune ensemble. Alors il faut être clair cependant, il est absolument étranger à l'esprit du mouvement œcuménique, tant chez les protestants que chez les catholiques, de dire que toutes les confessions chrétiennes se valent et que chacune est fidèle au Christ en restant ce qu'elle est. Au contraire, sans exception, semble-t-il, toutes les églises ont à se convertir pour être plus fidèles au Christ et à l'Évangile. Et c'est dans cette convergence vers le Seigneur que l'unité se fera, et quand le Seigneur le voudra. Mais il y a une racine et un modèle de l'Église unique, c'est la Trinité. Bon, c'est vrai qu'il y a la grande prière de Jésus qu'on a évoquée tout à l'heure, mais qui n'a pas encore été exaucée, tout à fait. Il y a le signe du Christ lui-même, afin que le monde croit qu'il soit un comme nous sommes un. Il y a l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'unité. L'Église se rassemble pour vivre la communion. Alors il serait, à mon avis, intolérable qu'il y ait longtemps plusieurs communions, puisqu'il n'y a qu'un seul Christ. Mais l'unité est loin d'être parfaite, elle reste à faire. Il est plus que temps que les chrétiens du XXIe siècle, à quelques communions qu'ils appartiennent, pensent par leur propre tête et agissent de leur propre conviction. Elles feront peut-être les premiers pas vers leurs frères séparés. L'œcuménisme, en tous les cas, du côté catholique, est un peu stagnant. Il concerne pourtant tout le monde. Mais je relève cinq démarches du mouvement œcuménique. Ce sont les efforts qui visent à éliminer toute parole, jugement ou acte qui ne correspondent ni en justice, ni en vérité, à la situation de frères désunis. Le dialogue mené par des gens compétents, bien formés, en des réunions organisées. Il y a une plus large collaboration dans les tâches qui s'imposent à la conscience chrétienne en vue du bien commun. Les communautés se retrouvent réunies pour une prière commune, unanime, et enfin elles s'examinent sur leur fidélité à la volonté du Christ. L'existence d'un esprit œcuménique est un bon test. Chrétiens désunis mais en dialogue, nous sommes tous frères, nous marchons tous sur un même chemin et vers un même horizon, avec l'héritage de nos séparations, avec notre volonté de reconstruire l'unité et avec la participation commune à une situation nouvelle.
Merci Père Labro. Pasteur Herizo, au niveau de l'Église protestante, quelle est la température vis-à-vis de l'œcuménisme ?
Je vais évoquer deux points. Déjà, le premier point, c'est le rapport à l'histoire même du protestantisme. Qu'est-ce que les protestants d'aujourd'hui, de l'Église protestante unie de France, ont comme rapport avec leur propre histoire? Parce que souvenons-nous qu'ils ont été persécutés à un moment donné et blessés. Ils en ont fait de même. Aussi, ça c'était le premier point, et la question de l'identité. Pour le premier point, il me semble que le protestantisme a besoin d'être guéri de son histoire parce qu'il emporte encore le stigmate. De pouvoir trouver le chemin du pardon de ce qui a été fait jusqu'au point d'affirmer une identité protestante qui pourrait remettre en question l'identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on met en premier? Si j'évoque ces points-là, c'est justement pour lever les barrières et les obstacles qui pourrait empêcher nous protestants de faire maison commune avec les autres confessions chrétiennes. Donc, premier point, se guérir de ça, sa propre histoire. Deuxième point, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'il ne serait pas orgueilleux de se dire que j'ai une identité chrétienne, je suis sûr de ce que je crois, et les autres ont tort? C'est cette identité-là que je remets en question. Si elle est ancrée en Christ, dans le vivant, les autres deviendront mes frères naturellement. Il s'agit d'histoire et d'identité. Et finalement, quelle est alors cette maison commune? Ben, la Bible l'appelle le royaume de Dieu. Si nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu, les autres identités secondaires, mais pas des moindres d'ailleurs, mais secondaires, s'estomperont et on pourra se dire tout simplement que nous sommes citoyens du royaume, malgré le fait que nous ayons tous des traditions différentes, des confessions différentes et des perceptions différentes de ce que c'est la foi chrétienne.
Merci, pasteur Herizo. Très brièvement, père Jean Wezel, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes. Voilà. Pour l'Église orthodoxe, quel est le sentiment vis-à-vis de l'œcuménisme?
Alors, il faut quand même signaler que par rapport à le passé, il y a 100 ans, en gros, hein, 100 ans, il y a quand même une évolution de la conscience orthodoxe par rapport à l'œcuménisme, et en particulier celui qui mène un peu la danse, je dirais, pardonnez-moi, la danse œcuménique, pourquoi pas, c'est le patriarcat de Constantinople. Le patriarcat œcuménique de Constantinople, il a ce terme-là d'ailleurs, qui fait un gros travail. À sa suite, la Russie. Alors, d'autres pays comme la Grèce, la Roumanie, etc., qui ont, enfin, Roumanie, Bulgarie, Serbie, qui ont été sous la férule du communisme, etc. Donc, quand ils sont sortis de cet état de fait après 75 ans, il y avait en gros 100 ans à récupérer, n'est-ce pas, à récupérer, parce qu'il y avait du retard dans tout ça, il y avait du retard, il n'avait aucun lien avec... Alors, en Occident, je parle plutôt de la France parce que je connais la chose beaucoup mieux, si vous voulez, lorsqu'il y a eu les premières générations, et en particulier d'Asie mineure, les Grecs et les Russes qui ont fui le joug communiste, très rapidement, ils étaient devenus, ces Russes et autres, étaient devenus Français, etc. Eh bien, nous avons eu il y en a encore, de grandes compétences, et j'en ai enterré quelques-uns, d'une grande compétence, théologiens et autres, des laïcs, n'est-ce pas, qui étaient vraiment versés dans l'œcuménisme. Versé dans l'œcuménisme, et nous en avons. Donc, voilà, c'est, pardonnez-moi, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a du bon, du très bon pour l'œcuménisme, pas suffisamment, mais il y en a, beaucoup moins chez les gens.
Merci, Père Jean. Ben, on va se féliciter de notre groupe œcuménique, puisqu'on essaie d'entraîner. Nos églises respectives dans cette démarche qui nous paraît essentielle. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions de votre écoute attentive et je remercie chacun des intervenants pour son intervention précieuse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission où nous aborderons les points d'accord, de désaccord, ce qui nous réunit, nous diversifie et nous divise malheureusement encore. Voilà, nous aborderons tous ces points lors d'une prochaine émission. À bientôt.